بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 15 dans la lecture du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Iqtida al-Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim, avec les commentaires du Cheikh Salih al-Fawzan dans son commentaire qui s'intitule Al-Ta'liq al-Qawim ala Kitab Iqtida al-Sirat al-Mustaqim. Et donc on est arrivé au passage numéro 57 dans le livre, à la page 116 du volume 1. Et le cheikh, maintenant, il va lire un verset ou deux versets dans le Coran. Il dit: قال الله سبحانه وتعالى عن النصارى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلماته ألقاها إلى مريم. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إلى غير ذلك من المواضع. Donc dans ce passage, Cheikh al-Islam, il cite deux versets. Le premier, c'est le verset 171 dans sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous les gens du livre, c'est-à-dire ceux qui ont reçu le livre avant la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens ici dans ce contexte-ci. Il dit aux chrétiens: ô vous les gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites à propos d'Allah que la vérité. Et ne dites à propos d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah et une parole qu'il a mise en Mariam. Et il a dit dans le verset 17, dans Sourate Al-Ma'ida, ils ont certes mécru ceux qui disent que Allah est le Messie, fils de Marie. Ils ont certes rejeté la foi, ils n'ont pas cru. Ceux qui ont dit que Allah est le Messie, fils de Marie, que Dieu est le Messie, fils de Marie. Comme les chrétiens qui actuellement disent que Jésus est Dieu incarné, ou que c'est le fils de Dieu, ou des choses de ce genre. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans le Coran que ceux-là ont rejeté la foi et que ce ne sont pas des croyants, ils ont rejeté la foi en disant ce genre de paroles. Le Cheikh Al-Fawzan, il explique ce passage. Il dit: بعد أن ذكر الشيخ جملة من صفات اليهود التي شابههم فيها بعض هذه الأمة، انتقل لبيان صفات النصارى وهم الطائفة الثانية من أهل الكتاب. Donc le Cheikh, il dit, après avoir mentionné certaines des caractéristiques des Juifs et ceux qui leur ressemblent dans cette umma, ceux qui ressemblent à des juifs et qui ont certaines de leurs caractéristiques parmi les musulmans, maintenant il passe à un autre exemple, un autre groupe. Il commence à décrire les caractéristiques des chrétiens maintenant. Et c'est le deuxième groupe parmi les gens du livre. Il dit وهم الطائفة الثانية من أهل الكتاب الذين بعث الله إليهم نبيه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حيث بعثه الله بالتوراة وأنزل عليه الإنجيل مكملا للتوراة ومبينا ما فيها وناسخا لبعضها ولهذا قال عز وجل على لسان عيسى عليه السلام مصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون فلم يؤمن به الإيمان الصادق والصحيح إلا القليل منهم. Donc le cheikh il dit que c'est le deuxième groupe parmi les gens du livre auquel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Isa, Jésus, fils de Marie. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala l'avait envoyé avec la Torah et il lui a révélé l'évangile pour compléter la Torah et pour clarifier ce qu'il y avait dans la Torah. Donc l'Injil c'est une clarification de la Torah et c'est pour compléter la Torah et pour abroger certaines parties de la Torah. Hein? Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit par la langue de Isa dans le Coran, dans le verset 50 dans surat Al-Imran, il mentionne le but de sa mission vers Bani Israël. Et il dit, et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui vous avait été interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur, craignez Allah, craignez donc Allah et obéissez-moi. Et il dit, mais yani, très peu d'entre eux ont cru en lui avec une foi sincère et correcte. وَهَاُولَٰئِ أَثْنَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَدَحَهُمْ. Ceux d'entre eux qui ont cru avec une foi sincère et correcte, Allah subhanahu wa ta'ala a fait leur éloge. Hein, et il a glorifié. وَوَعَدَهُمْ بِجَزِيلِ الثَّوَابِ حَيْثُ قَالَ سُبْحَانَهُ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ. C'est-à-dire que ceux d'entre eux qui ont cru vraiment avec une foi sincère, Allah leur a promis une grande récompense. Du fait que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 199 dans sourate Al-Imran, et ceux d'entre les gens du livre qui ont cru en Allah et en ce qui a été révélé vers vous, c'est-à-dire vers les musulmans, ils croient en Coran et en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ce qui a été révélé sur eux, donc ils croient aux deux, donc Allah subhanahu wa ta'ala cela leur a promis une grande récompense. Amma al-baqiyya
faqad amanu bihi walakinnahum ghalaw fihi wa tajawazu al-hadd fi Isa hatta rafa'uhu fawqa al-manzilati allati a'tahu Allah iyyaha hatta ittakhazuhu ilahan.
Donc le cheikh il dit, mais le reste d'entre les chrétiens, hein, ils ont cru en lui, mais ils ont exagéré à son sujet. Ils ont dépassé la limite à propos de Isa et ils l'ont élevé à un degré ou à un niveau que Allah ne lui avait pas donné jusqu'à ce qu'il le prenne comme une divinité et qu'il commence à l'adorer. Ils ont fait de lui un dieu. Hein? Ils ont fait de Isa, Jésus, le fils de Marie, ils ont fait de lui un dieu. Hein? Allah al-musta'an. Le cheikh il dit ensuite, Saru firaqan wa tawa'if. Firqatun taqul, inna Allah huwa al-Masih ibn Maryam. Wa ta'ifatun taqul, inna Allah thalithu thalatha. Wa ta'ifatun taqul, al-Masih ibn Allah. Wa qad fadahahum Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh explique que les chrétiens, après que Allah subhanahu wa ta'ala ait élevé Isa vers lui, vers les cieux, les chrétiens se sont divisés en plusieurs groupes. Les chrétiens se sont divisés en plusieurs groupes et en plusieurs sectes par la suite. Certaines sectes parmi les chrétiens disent que Allah c'est le Messie, fils de Marie. Un autre groupe disent qu'il est un des trois qui forment la Trinité, hein? Et ils disent que Dieu est trois en un, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et que Jésus fait partie de la divinité. Un autre groupe d'entre eux disent que le Messie est le Fils d'Allah, hein? Ils disent que le Messie est le Fils d'Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala les a tous, hein, démasqués et montrés leurs égarements dans les versets du Coran justement qui parlent de ce sujet-là. Il a réfuté toutes ces catégories de chrétiens et toutes ces sectes de chrétiens une après l'autre. Dans Sourate An-Nisa, le verset 171 à 173, et le verset de Sourate Al-Ma'ida qu'on a lu tout à l'heure, le verset 17, hein, on l'a lu celui-là aussi, qui clarifie ce point-là, et puis il y en a d'autres également, vous allez voir. Donc, on va lire ensemble les versets 171 à 17, que le Cheikh a... 171 à 173, pardon. Il dit: « Ya ahl al-kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ثم يقرر الله عز وجل كفر من قال إن الله هو المسيح ابن مريم قال الله لقد كفر الذين قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Donc, on va lire la traduction maintenant de ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: « Oh, vous les gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites à propos d'Allah que la vérité. Le Messie, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Et sa parole qu'il envoya à Marie, et un souffle de vie venant de lui. Hein? Croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites pas trois, hein? Comme les chrétiens qui disent que Dieu est trois en un. Ne dites pas trois, cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux, hein? Et trop élevé pour avoir un enfant. Qu'il soit glorifié et purifié, yani d'avoir, qu'on lui attribue un enfant ou d'avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. Jamais le Messie, c'est-à-dire Jésus, ne trouve indigne d'être un serviteur d'Allah, ni les anges rapprochés d'Allah. Et ceux qui trouvent indigne de l'adorer et s'enfle d'orgueil, il les rassemblera tous vers lui. Quant à ceux qui ont cru et fait des bonnes œuvres, il leur accordera les pleines récompenses et y ajoutera le surcroît de sa grâce. Quant à ceux qui ont eu la morgue, c'est-à-dire qui ont dénigré ou qui n'ont pas aimé le fait de se soumettre à Allah, qui se sont enflés d'orgueil, il les châtiera d'un châtiment douloureux et ils ne trouveront pour eux en dehors d'Allah ni allié ni secoureur. Donc ça c'est les versets qu'on a lus de 171 à 173. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé la mécréance de celui qui dit que Allah est le Messie fils de Marie. Et il dit dans le verset 17, dans Surat Al-Ma'ida, certes sont mécréants ceux qui disent Allah c'est le Messie fils de Marie. Certes sont mécréants ceux qui disent Allah c'est le Messie fils de Marie. Ceux qui... les chrétiens, exactement, qui démasquent leur mécréance, hein, et qui montrent la laideur de leur fausse croyance. Hein. Il dit inna fi hadhihi al-umma man yasluku maslaka an-nasara alladhina ghalaw fi Isa alayhi salam fa ghalaw fi an-nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ghalaw fi al-awliya'i was-salihin ورفعوهم فوق منزلتهم حتى صرفوا لهم العبادة بأن ذبحوا ونذروا واستغاثوا بالأولياء والصالحين وطلبوا حاجتهم منهم فهم بفعلهم هذا شابه النصارى وشابه اليهود من قبل. Donc le cheikh il dit que parmi cette umma, parmi les musulmans, il y en a qui ont suivi la même voie que les chrétiens. Et qui ont exagéré, qui suivent la même voie que ceux qui ont exagéré à propos de Isa, alayhi salam. Et qui exagèrent à propos du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et qui exagèrent au sujet, des hommes pieux et des saints. Et qui les élèvent au-dessus de leur degré et au-dessus de leur niveau. Jusqu'à ce qu'ils leur offrent même des formes d'adoration en dehors d'Allah. Et donc, ils sacrifient et ils égorgent pour eux des animaux. Et ils font des vœux pieux à leur tombe. Et ils les appellent au secours dans les moments de détresse. Ils appellent les saints et les hommes pieux et ils leur demandent de régler pour eux leurs demandes et leurs besoins. Donc, en agissant ainsi, ils ont imité les chrétiens, ils ont imiter les juifs avant eux. Hein? Et ça, cet exemple-là, c'est l'exemple justement du shirk qui est commis par beaucoup d'entre ceux qu'on appelle les soufiyins et par ceux qu'on appelle les rafida, hein, les chiites rafida et d'autres sectes également parmi les gens qui adorent d'autres que Allah ou offrent des formes d'adoration à autres que Allah. Et on voit, comme le shirk dit ici, que c'est effectivement vrai que parmi les musulmans, certains essayent d'imiter les chrétiens. Mais certains musulmans ne réalisent pas ça. Et ils disent, nous on ne fait pas comme les chrétiens. Parce que les chrétiens, ils disent pas, les chrétiens disent que Jésus est Dieu ou fils de Dieu. Et nous on ne dit pas que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est Dieu ou fils de Dieu. Hein? Et on ne dit pas que, on ne dit pas que par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est Dieu incarné ou des choses comme ça. Le prophète Mohammed, on ne dit pas ça à son sujet. Donc, on n'est pas comme les chrétiens. Hein? Et donc, ils essaient de dire que parce qu'ils ne disent pas les mêmes choses à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que ce que les chrétiens disent, qu'à cause de ça, ils ne font pas le shirk. Mais la réalité, c'est que même s'ils ne disent pas, du moment qu'il l'invoque ou qu'il lui demande de l'aide dans les moments de détresse ou qu'il le font avec des saints ou des hommes pieux, eh bien c'est comme s'il l'avait pris comme un dieu lui aussi, même s'ils ne disent pas qu'ils croient que c'est Dieu. Hein, même s'ils ne disent pas qu'ils croient qu'il est Dieu, du fait de l'adorer, ils l'ont mis à égalité avec Dieu. Ils en ont fait un égal avec Allah. Et ça c'est du shirk. Hein, c'est du shirk majeur. La même chose pour ceux qui adorent les saints et les tombes et les morts et qui adorent les hommes pieux ou les imams ou les chouyours, hein, et qui disent, on ne dit pas d'eux qu'ils sont Dieu, on ne dit pas qu'ils ont le contrôle de l'univers, mais en les adorant et en leur offrant des formes d'adoration, ils ont fait d'eux des dieux et des divinités. Et ils les ont mis égalité à Allah, ils les ont mis à égalité avec Allah dans l'adoration. Et ça, c'est ça leur shirk. Ou bien ils ont pris ces hommes pieux-là comme des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah, et ils leur ont demandé directement de les aider. Donc ça, tout ça, c'est du shirk akbar, du shirk majeur. C'est pas nécessaire que tu dises, pour être mushrik, que tu dises, par exemple, le prophète Mohammed c'est Allah, ou Jésus c'est Allah, ou bien que tu dises les hommes pieux et les saints c'est Allah. Même si tu le dis pas, du moment que tu leur demandes, tu dis, oh un tel, aide-moi, guide-moi, ou bien donne-moi la subsistance, ou bien protège-moi, ou viens à mon secours, ça fait comme si tu les as mis à égalité avec Allah. Et tu as fait d'eux des dieux et des divinités dans l'adoration. Et ça, c'est ça que beaucoup d'entre eux ne comprennent pas. Par leur action, ils l'ont pas fait par leur parole, mais ils l'ont fait par leur action. Hein? Ils ont fait le shirk en agissant et en parlant de cette façon-là. نعم إلى الشيخ الزي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر هذه الأمة أن تفعل فعلهم فقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه في الصحيحين حتى كان في الأمة من يقول في حق الرسول صلى الله عليه وسلم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إلى آخر هذا الكلام الذي هو شرك بالله عز وجل. Et donc le cheikh il dit, et c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites attention, n'exagérez pas à mon sujet, quand vous me glorifiez, n'exagérez pas à mon sujet, de la même manière que les chrétiens ont exagéré au sujet du fils de Marie, parce que je ne suis qu'un serviteur d'Allah, alors dites, le serviteur d'Allah est son messager seulement, n'exagérez pas plus que ça, ne dites pas plus que ça. Et ça c'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Umar radiyallahu anhuma. Mais dans la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parmi les musulmans, eh bien il y en a qui, malgré tout, sont tombés dans la même exagération, yani, dans leurs paroles et dans leur glorification du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, il y a un poète ou un soufi, yani poète, qui s'appelle Al-Busayri. Et ce poète, cet homme, qui s'appelle Al-Busayri, qui faisait partie des soufis, il a écrit un poème pour glorifier le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans son poème, il a tellement exagéré qu'il a décrit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec du shirk. Il a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des caractéristiques divines. Hein? Voici des exemples de ce qu'il dit dans son poème, et le cheikh il l'a cité. Ya akram al-khalq ma li man aluzu bihi siwaka 'inda hulul al-hadith al-'imam. C'est-à-dire, ô toi la plus noble des créatures, je n'ai personne d'autre que toi en qui chercher refuge lors de la grande événement. Lors du grand événement. Ça c'est du shirk. Parce que tu dis, je n'ai personne en qui d'autre me réfugier autre que toi, ô toi la plus noble des créatures. Ça c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que le refuge c'est uniquement en Allah. Et le seul qui peut nous protéger ou nous préserver au jour de la résurrection, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas une créature parmi les créatures d'Allah. Et ce poème s'appelle Al-Burda. Al-Burda. Et les soufis, ils le récitent et ils le chantent à chaque année durant la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il chante le poème qui s'appelle Al-Burda, écrit par Al-Busayri. Et qu'est-ce qu'il dit après dans le même poème? Il lam takun fi ma'adi akhidhan biyadi fadlan wa illa faqul ya zallat al-qadami. C'est-à-dire, si tu n'es pas là ce moment-là lors de ma résurrection pour me tenir par la main, par ta grâce, hein? Eh bien, sinon, je vais glisser, je vais tomber. Hein? Mon pied ne va pas tenir. Et il dit ensuite, en décrivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec des caractéristiques de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَإِنَّ مِنْ عُلُومِكَ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. Donc ça veut dire quoi ça? Parmi tes merveilles, c'est-à-dire il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit au prophète, parmi tes merveilles il y a cette vie d'ici-bas et وَضَرَّتَهَا. الضَرَّة c'est quoi? C'est quand un homme il a deux épouses, hein, dans la vie, quand il a deux épouses, une des deux femmes appelle l'autre, sa co-épouse, elle l'appelle sa darra, hein, celle, parce qu'elle, comme elle considère comme si elle lui fait du tort en étant la deuxième épouse de son mari. Donc, lui, il appelle la dunya, c'est comme si c'était une épouse. Puis, darrataha, c'est-à-dire sa co-épouse, c'est-à-dire l'au-delà. Hein? Donc, darrataha, ça veut dire l'au-delà. C'est comme si c'était sa co-épouse, en voulant dire que les deux, la vie de la dunya, et elle nuit à la vie de l'au-delà. Et la vie de l'au-delà, en tout cas. Donc, c'est un truc de poésie. Tu vois, les poètes, ils aiment ça, faire des jeux de mots, puis des comparaisons comme ça. Naam, donc il dit fa inna min judika ad-dunya wa darratuha. Donc parmi tes merveilles il y a la vie d'ici-bas et l'au-delà, en voulant dire que yani pour eux le monde d'ici-bas et l'au-delà, wa alaykoum salam wa rahmatullah, ça c'est une des croyances des soufis, hein, que la vie d'ici-bas et l'au-delà ont été créées pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils disent que, certains d'entre eux disent que le monde d'ici-bas a été créé de la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, c'est leur croyance en quelque chose qui s'appelle An-Nur al-Muhammadi. An-Nur al-Muhammadiyya. Ils disent que Allah a créé la lumière du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a créé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lumière. Et de cette lumière, il a créé le monde. Par la suite. Et il l'a créé pour le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie de leur khurafat, de leur superstition. Puis en plus, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à cause qu'il était créé de lumière, il n'avait pas d'ombre quand il marchait sur la terre. Tout ça, c'est des mensonges. Et parmi les faux hadiths qu'ils rapportent à ce sujet-là, c'est des hadiths fabriqués, parce que les soufis, ils se basent beaucoup sur les hadiths qui sont daïf, qui sont faibles ou maudours, fabriqués. Et donc, ils disent que quand Adam a été créé, il a regardé le trône et il a vu écrit le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dessus, sur le trône d'Allah. Et donc, il a demandé, c'est qui celui-là? C'est qui Muhammad? Il a dit, ça c'est celui pour qui j'ai créé tout le monde. Des choses comme ça. Il y en a des paroles de ce genre, il y en a des choses fausses. Il y en a. Ça c'est possible, mais l'autre là, c'est. Parce qu'il y a des hadiths qui mentionnent que certains sahabas, il y a un nuage qui est venu sur eux, ou bien sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que c'était un ange en réalité. Mais celui-là, l'histoire du monde qui a été créé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a un idée du fait que il était créé de lumière, des choses comme ça, tout ça, il n'y a rien d'authentique à ce sujet-là. Et donc il dit, parmi tes merveilles, il y a cette vie d'ici-bas et l'au-delà. Et parmi ta science, il y a la science de la table préservée et de la plume. Donc ça veut dire que ça, c'est, il attribue la connaissance de qu'est-ce qui est dans Lawh al-Mahfouz, la table préservée, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est la connaissance du rêve. Et la connaissance du rêve, personne ne la détient, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait d'affirmer ou d'attribuer au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la connaissance de qu'est-ce qui est dans Allah al-Mahfouz, ça c'est shirk billah. Une fois j'ai cité cette ligne de la poésie à un cheikh soufi et il a réagi en voulant dire oui, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans, hein? Et là moi je lui ai répondu, je lui ai dit, vous pensez que c'est correct d'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam la connaissance du rêve et la connaissance de l'Lawh al-Mahfouz? Et là il a rien dit, il s'est tu, hein? Donc c'est pour dire, et ça c'est un soufi qui était à Médine. Allah al-Musta'an. Donc c'est pour ça les soufis défendent ce genre de poème, c'est le Bourda. Ça, celui à qui j'ai dit cette parole, c'est descendant de Al-Hajj Omar Al-Fouti, celui, le soufi Tijani qui a répandu la tariqa Tijaniya en Afrique de l'Ouest. Et il s'appelle Mohamed Mukhtar, il est à Médine, il est d'origine sénégalaise, hein? Et donc j'ai eu cette conversation avec lui. Au Sénégal, la religion qu'ils connaissent, c'est le soufia, c'est le tasawuf. Ils ne connaissent pas d'autres choses là-bas. Même beaucoup d'entre eux pensent que le soufisme, même, c'est l'islam. Parce qu'on leur a jamais enseigné la sunna. Et là, en Haïti, ils essaient de faire ça maintenant. Parce qu'en fait, étant donné qu'en Haïti, bon, on sait que l'origine des Haïtiens, c'est l'Afrique. Donc certains Haïtiens, ils jouent avec ça pour essayer de ramener, hein, le soufisme en Haïti. Vous dites, regardez vos origines, vos ancêtres, c'était des Africains, donc il faut retourner à l'islam qui est pratiqué en Afrique de l'Ouest, et ils ramènent donc la bid'a du soufi, des soufis, des choses de ce genre. Ahmadiyya, il y a plus plein d'autres sectes aussi. Ouais, non. Oui, toutes les sectes rentrent en Haïti, ça c'est connu. Parce que c'est un pays pauvre et là-bas tout le monde veut quelque chose, tu vois. Et les gens, ils cherchent de l'argent et eux, ils amènent de l'argent avec eux. Donc depuis que tu amènes de l'argent, exactement, ils sont financés, ils ont beaucoup de moyens, beaucoup d'argent. Al-Bourda, je pense que c'est un vêtement, Al-Bourda. Et c'est un vêtement, donc il parle, c'est peut-être par rapport aux vêtements qu'ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait. Hein? Et naam, Allahu a'lam. Et il y a beaucoup d'autres paroles de shirk, hein, dans ce poème-là. Et le shirk, il mentionne celui-là, sinon dans les livres de Azkar des soufis, c'est rempli de shirk et de bid'ah. Mais il cite Al-Burda en particulier, pour montrer qu'il y a du shirk dedans. Pourquoi? Parce que c'est un poème qui est très très célèbre, hein? Et même un des chouyours des frères musulmans, les Ikhwan al-Muslimoun, qui est très connu et que beaucoup de gens dans les pays arabes, dans les pays musulmans, considèrent comme quelqu'un qui était un grand savant, alors qu'en réalité c'était quelqu'un qui était dans un grand égarement et une grande ignorance. Eh bien, celui qu'ils appellent Kishk, Cheikh Kishk, eh bien, lui, chaque année, il récitait ce poème d'Al-Burda. Hein? Et il célébrait le Mawlid. Et même, il faisait partie de ceux qui célébraient ce genre de choses-là. Parce que c'était un soufi, hein? Et c'était un Ash'ari aussi. Donc, il niait les attributs d'Allah. Il déformait le sens des attributs d'Allah. Et c'était un khariji aussi, parce qu'il parlait toujours contre les dirigeants musulmans. Dans tous ses discours, il faisait une cassette sur chacun des dirigeants. Une fois, il fait une cassette, il parle de, par exemple, le président de tel pays. Il fait une autre cassette, il parle du roi de tel pays, puis il mentionne ses péchés, il mentionne les choses qu'il fait de mal. Et il soulève les masses. Essayer de critiquer les dirigeants, comme les Khawarij. Donc ça, c'est un des exemples de la méthodologie de cet égaré qu'on appelle Kishk, qui était aveugle. non seulement dans les yeux, mais aveugle aussi dans sa compréhension de la religion, Allah al-Musta'an. Donc, beaucoup de gens ont appris de lui dans le Maghreb et dans les pays arabes, parce que à l'époque, les gens étaient un peu éloignés de la religion, ils ne connaissaient pas vraiment bien l'islam, il n'y avait pas vraiment de da'wah, et beaucoup de gens ils ignoraient tout de la salafie, de la sunna, donc ils ne savaient pas. Ils ont commencé à apprendre un peu en écoutant ce genre de cassettes. Malheureusement, ils sont tombés dans la voie d'Ikhwan et les livres de Sayyid Qutb et de Muhammad Qutb et de Qardawi et de des gens qui suivent ces méthodologies-là, malheureusement. Ensuite, qu'est-ce que le Cheikh Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « ثم إن الغلو في الأنبياء والصالحين قد وقع في طوائف من ضلال المتعبدة والمتصوفة حتى خالط كثيرا منهم من مذاهب الحلول والاتحاد ما هو أقبح من قول النصارى أو مثله أو دونه. » Donc le Cheikh, il dit dans le passage numéro 58, il dit « Puis l'exagération au sujet des prophètes et des hommes pieux s'est produite dans certains groupes parmi les égarés d'adorateurs et de soufis, jusqu'à ce que certains d'entre eux-mêmes commencent à rentrer dans les voies de qu'est-ce qu'on appelle al-hulul wal-ittihad. Et al-hulul wal-ittihad, c'est la croyance de ceux qui pensent que Allah subhanahu wa ta'ala se mélange avec les créatures, dans le sens qu'il devient un avec certaines personnes, hein, ou bien qu'il se fusionne, que certains hommes, à force d'être tellement faire tellement d'exercices spirituels, faire beaucoup de dhikr, faire beaucoup d'adoration, qu'ils deviennent un avec Allah, hein. C'est ce qu'il appelle al-hulul. Al-hulul, ça veut dire il croit que Dieu rentre en certaines personnes. Et al-ittihad, c'est-à-dire l'unité, l'unification, le fait de devenir un. Donc il croit que, comme les bouddhistes, qui après avoir fait beaucoup de méditation, beaucoup de jeûne, beaucoup d'isolation, rester isolé dans la montagne ou dans une grotte, tu vois personne, tu fais juste méditer, tu manges pas, tu bois pas, tu dors pas, tu as aucun rapport avec aucune femme, tu t'éloignes de tout. Il faut s'éloigner de tout pour libérer notre âme et s'unifier avec Dieu pour atteindre le nirvana. Ben eux en fait, le nirvana, ça veut dire tu deviens un avec le cosmos, avec l'âme universelle, qu'est-ce qu'ils considèrent être, parce que eux, les bouddhistes, croient pas en un Dieu, donc c'est des athées en fait, mais ils croient que tout l'univers forme un tout. Et que quand ils atteignent le nirvana, ils redeviennent un dans cet univers, ils se libèrent du cycle de réincarnation, comme ils disent dans leurs croyances, et ainsi de suite. Donc les soufis, ils ont la même aqidah que les bouddhistes, que les hindous et que ces gens-là. Quoique, à arriver à un certain moment, lorsque tu deviens tellement illuminé, tellement spirituel, tu te libères de tout, tu deviens un avec Allah. Et c'est ça leur croyance qu'ils appellent al-hulul. Et Wahdat al-Wujud, ou bien al-Ittihad, ou des choses comme ça. Et le Cheikh, il dit, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit cette parole, elle est plus laide que la parole des chrétiens, ou égale avec celle-ci, ou moindre. Il y a des degrés parmi eux. Certains de ces soufis, parce que les chrétiens, eux, ils croient en al-Hulul ou al-Ittihad. Mais sauf qu'ils disent que Dieu, il rentre seulement en Jésus. Mais les hindous, les bouddhistes et les soufis qui croient en Wahdat al-Wujud, ils disent Dieu peut rentrer dans n'importe quelle des créatures qu'il veut, mais il y en a qui disent non, mais juste en certains en particulier, certains hommes pieux seulement. Puis ceux qui croient en Wahdat al-Wujud, ils disent non, en toutes les créatures, mais il peut être en certains plus que dans d'autres. C'est la même chose, même pire. C'est comme il y a un cheikh qui disait une fois, il disait si les chrétiens ils disent que Dieu est rentré en Jésus et Allah les a déclarés koufars pour ça, que dire de la mécréance et du kufr de celui que, qui dit que Dieu rentre dans toutes les créatures et dans tous les hommes et même dans les animaux, dans le porc, dans les chiens, dans les toilettes, dans les impuretés, dans toutes les saletés. Ça, c'est encore plus mécréant encore que celui qui dit que Allah rentre à un prophète ou un homme pieux. Non. Et c'est ça, une fois j'ai rencontré un Guinéen qui était soufi à Montréal. Et lui, il me disait, oui, moi je crois en Wahdatul Wujud. Il dit, des fois je vais prier à l'église, il n'y a pas de problème. Hein? Je crois, oui, je crois que Dieu est dans tout, partout. Il dit, tu dis, même Dieu est dans le port. Là, il n'a rien dit, il m'a regardé, il a fait un sourire. Il n'ose pas le dire avec sa bouche parce qu'il sait que c'est grave, mais il ne l'a pas nié. Il ne l'a pas nié, tu vois. Donc c'est pour dire comment ces gens-là sont dans l'égarement en fait. Wahdatul wujud. Et al-hulul et al-ittihad. Il y a aussi un terme qu'ils utilisent aussi qui s'appelle ou qu'ils appellent al-fana. Tout ça, c'est les termes que les soufis utilisent pour mélanger le monde et pour les égarer avec des fausses croyances. Non. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il commente sur ce passage. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit من هذه الأمة طوائف وقعت فيما وقعت فيه النصارى بغلوهم في أنبيائهم وصالحيهم حينما رفعوهم فوق المنزلة التي أنزلهم الله فيها لا سيما من جهال المتعبدين الذين يعبدون الله على جهالة والمتصوفة الذين بالغوا في العبادة وتشددوا وتنطعوا من الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون قالها ثلاثا. Donc le cheikh il dit, et parmi cette umma il y a des groupes qui sont tombés dans l'exemple de ce que les chrétiens sont tombés dedans, l'exemple, le même exemple que ce en quoi les chrétiens sont tombés d'exagération au sujet des prophètes et des hommes pieux lorsqu'ils les ont élevés à un degré plus haut que celui dans lequel Allah les avait placés, en particulier les ignorants parmi les adorateurs et ceux qui adorent Allah avec ignorance, hein, les adorateurs ignorants qui adorent Allah avec l'ignorance, ou les soufis, les gens qui sont des mutasawwifa, les soufismes qui pratiquent le tasawwuf ou le, qu'est-ce qu'on appelle la soufiya, le soufisme ou le mysticisme comme ils l'appellent parfois, le mysticisme islamique, hein, Allah musta'an. Et donc ceux-là ont exagéré dans l'adoration et ils ont exagéré dans la religion, et ce sont ceux au sujet desquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté dans un hadith rapporté par l'imam muslim selon Abdullah ibn Mas'ud, il a dit que périssent les extrémistes, que périssent les extrémistes, que périssent les extrémistes. Al-mutanatti'un. Al-tanatti', c'est le fait d'exagérer dans la religion, de vouloir trop exagérer dans les petits détails, hein, de vouloir être extrémiste. Et il a dit, wa qala alayhi salatu wa salam, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté par Ahmad et Ibn Majah selon Ibn Abbas, il a dit, prenez garde à l'exagération dans la religion, car ceux qui ont péri avant vous ont uniquement péri à cause de l'exagération dans la religion. Wa qala alayhi salatu wa salam, فإن المنبت لا أرض قطعة ولا ظهر أبقى. نعم. Donc celui qui exagère dans la religion, eh bien, il n'arrive pas à faire une longue distance dans son chemin et il n'est pas capable non plus de garder sa monture, parce qu'il tue sa monture, il tue son cheval ou son chameau à force de le forcer à aller trop longtemps, trop vite. Mais comme un voyageur. Si un voyageur, il veut faire trop une longue distance sans se reposer, sans arrêter, hein, il va aller avec son cheval, il va au galop, hein, à toute vitesse, sans arrêt, jour et nuit, ça, il ne va même pas arriver à sa destination et sa monture va mourir en chemin parce qu'elle va être épuisée. Et donc, il n'arrive pas à destination. C'est l'exemple de celui qui veut exagérer dans la religion et dans sa pratique de l'islam. Et ça, on retrouve parfois des gens, parmi les jeunes musulmans, ceux qui commencent à pratiquer, qui étaient dans l'égarement et dans le péché, puis qui reviennent à l'islam. Parfois, tu vois certains d'entre eux, à cause de leur ignorance, ils tombent dans l'extrémisme, dans l'exagération. Et aussi, on trouve ça chez certains convertis, lorsqu'ils viennent de la mécréance, et Allah les guide à l'islam, eh bien, ils tombent dans l'extrémisme et dans l'exagération, dans leur compréhension de la religion. Et ils essaient de pratiquer les choses sans retourner ou sans demander conseil aux savants de la religion pour savoir comment faire les choses, comment pratiquer les choses, comment comprendre la religion. Et donc, ils tombent facilement dans l'extrémisme et dans l'exagération par la suite. Allah al-Musta'an. Donc, ça c'est des exemples d'extrémisme. Mais il y a l'extrémisme dans la croyance et dans la pratique, comme chez les soufis, par exemple, qui exagèrent à propos des hommes pieux et des prophètes, comme on est en train de l'expliquer. Il dit « Walamma arada al-thalatha » « Walamma arada al-thalatha »« Thalatha tunafar »« An yazidu fil ibadati »« Faqala ba'duhum ana usalli wala anam »« Waqala al-akhar ana asumu wala uftir »« Waqala al-thalith ana la atazawwaju al-nisa » فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب أشد الغضب وقال وأما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. Donc le cheikh il dit, lorsque trois personnes sont venues, hein, et ils ont voulu exagérer ou plutôt rajouter dans l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un d'entre eux qui a dit, moi je veux prier la nuit, je ne veux jamais dormir. Et l'autre a dit, moi je veux jeûner, je ne veux jamais briser le jeûne. Et le troisième a dit, moi je ne veux jamais épouser de femme. Alors lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ça, il s'est mis en colère, d'une grande colère, et il a dit, moi parfois je jeûne et parfois je ne jeûne pas, et parfois je prie et parfois je dors, et j'épouse des femmes. Alors celui qui préfère autre que ma sunna, il n'est pas de moi. Hein? Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Anas ibn Malik, hein? Rahimahullah, radiyallahu anhu. Il dit فَهَاُلَا أَفْسَدُوا مِنْ حَيْثُ أَرَادُوا أَنْ يُصْلِحُوا فَإِنَّمَا جَاءَ صلى الله عليه وسلم بالشريعة السمحة المعتدلة لا إفراط ولا تفريط جاءت وسطا بين الغلو والجفاء فأبت طوائف إلا الغلو والتشدد وقد أرشد الله نبيه بالاستقامة فقال نعم. On va lire le verset après. Donc le cheikh il dit, ceux-là ils ont créé du désordre, ils ont créé du désordre alors qu'ils pensaient vouloir faire du bien. Hein? Ils ont pensé faire bien en disant ça, mais en réalité ils ont fait du désordre et ils ont corrompu la religion en agissant comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la sharia, la législation de la modération et de la tolérance, hein, et de la miséricorde, dans lequel il n'y a pas d'extrémisme et qu'il n'y a pas de laxisme. C'est pas un extrême, mais c'est pas l'autre. C'est le juste milieu et la modération. Et il dit, donc elle est venue, cette religion, et elle est une religion du juste milieu, entre l'exagération et l'extrémisme. Et certains groupes n'ont accepté que l'extrémisme et l'exagération, malheureusement. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son messager de rester sur l'istiqama, c'est-à-dire de rester sur la fermeté et sur la droiture et sur le juste milieu et la modération. Il dit فقال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ولا تطغوا أمره بالاستقامة ومن معه من أصحابه ومن أمته من بعده ونهاهم عن الطغيان والتشدد والغلو عن الحد المشروع فوقع الغلو في هذه الأمة حتى اشتد الأمر وظهرت فرق كثيرة من الغلاة منها فرقة وحدة الوجود الذين غلوا في التوحيد فقالوا إن الكون ليس فيه انقسام كله هو الله فمن قال إن هناك خالقا ومخلوقا فهو مشرك والموحد في نظرهم من يجعل الكون كله لله أو كله الله تعالى الله عما يقولون وهذا كلام الذين قالوا بوحدة الوجود تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ومنهم من قال إن الله حال في أوليائه ويسمون بالحلولية ومنهم من قال إنه وصل إلى الله فليس بحاجة إلى اتباع الرسول والرسول إنما هو للعوام دون الخواص هو خواص الخواص نسأل الله العافية. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, dans le verset 112, dans Surat Hud, il ordonne de rester droit et de rester ferme, ainsi que ceux qui sont avec lui parmi ses compagnons et ceux qui le suivent par la suite parmi sa umma. Et il leur interdit At-Tughyan. At-Tughyan, c'est le fait de transgresser et d'exagérer dans la religion et d'être trop dur ou d'être extrémiste, yani de dépasser la limite qui a été légiférée par Allah. Et donc l'extrémisme et l'exagération se sont produits dans cette umma jusqu'à ce que certaines sectes et certains groupes d'extrémistes apparaissent parmi les groupes qu'on appelle Wahdatul Wujud, les groupes de Wahdatul Wujud, ceux qui croient que pour eux le tawhid ça veut dire qu'il n'y a pas de il n'y a rien autre que Allah. C'est-à-dire que eux, c'est ça le tawhid des soufis. Et souvent c'est ça que parfois tu parles avec des gens de bid'a et des égarés et tu leur parles, tu leur dis le tawhid c'est la base de l'islam, c'est très important. Ils disent oui, c'est vrai, le tawhid c'est la base de l'islam et c'est très important. Sauf que eux, la notion et la définition qu'ils donnent au tawhid, c'est pas du tout la même définition que les gens d'Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Donc leur tawhid à eux, c'est du shirk et du kufr. Tandis que pour eux, notre tawhid, c'est de l'égarement. Notre tawhid, c'est de ne pas adorer rien d'autre que Allah et de croire que Allah seul mérite d'être adoré et que celui qui offre à autre que Allah une forme quelconque d'adoration, il est mushrik. Il fait du shirk. Et qu'on ne doit pas, c'est-à-dire, nier les noms et les attributs d'Allah et qu'on doit affirmer à Allah ses noms et ses attributs. Et qu'on ne doit pas faire de ressemblance entre le Créateur et la créature, et ainsi de suite. Et qu'on doit affirmer à Allah la souveraineté et la seigneurie tout entière, et que tout lui appartient à lui seul, et qu'il a tout créé ce qui existe. Donc ça c'est le tawhid. Mais, pour les soufis, Cheikh dit, eux ils ont exagéré dans le tawhid, jusqu'à dire qu'il n'y a pas de division dans la création et dans ce qui existe. Tout est Allah. Donc pour eux, celui qui dit qu'il y a un créateur et une créature, qu'il y a une différence, que le créateur c'est le créateur et que la créature c'est la créature et que les deux sont séparés et sont différents, pour eux ça c'est un mushrik. Celui qui dit qu'il y a un créateur et il y a la créature, pour eux c'est un mushrik. Pourquoi? Parce qu'il affirme deux choses qui existent. Il n'affirme pas une seule existence, il affirme deux choses. Le créateur et les créatures. Pour lui, donc, c'est-à-dire, celui qui dit ça, c'est un mouchrik. C'est un associateur. Il a commis de l'idolâtrie pour eux. Allah al-Musta'an. Ils ont fait du tawhid le shirk. Pour eux, le tawhid, c'est le shirk. Et pour eux, le shirk, c'est le tawhid. Ils disent que, par exemple, celui qui adore des idoles, qui adore des statues, des idoles, des tombes, des saints, des morts, des prophètes, des anges, c'est seulement un mushrik si il dit que ce n'est pas Allah. Mais s'il dit que les idoles et les prophètes et les anges et les morts et les tombes et que le soleil et la lune, que tout ça c'est Allah, dans ce cas-là, c'est pas un mushrik. Parce qu'il adore Allah à travers ces choses-là. Il n'adore pas ces choses-là elles-mêmes, mais il adore Allah à travers la création. Donc c'est là, c'est des mushrikines, c'est clair, c'est des kuffars. Mais eux, ils essaient de jouer avec ça. Une fois justement, il y a un centre, il y a plusieurs centres soufis à Montréal, il n'y a pas juste un, mais un d'entre eux, ils ont organisé une rencontre, et dans cette rencontre, il y avait, avec eux, il y avait des bouddhistes, il y avait des chrétiens, il y avait des hindous, et ils étaient tous ensemble en train de prier, d'adorer, de méditer en même temps, à la même place. Parce que pour eux, ils disent, c'est pas grave, qu'est-ce que tu adores? Tout est Allah. Hein? Et c'est pour ça qu'ils appellent à qu'est-ce qu'ils nomment l'unification des religions. Qu'il faut unir toutes les religions ensemble. Et qu'il ne faut pas les distinguer ou faire de différence entre les religions. Hein? Et ça rejoint les idées de la franc-maçonnerie aussi. Parce que ça fait partie des principes de la franc-maçonnerie. D'appeler à l'unification des religions. Hein? Allah al-Musta'an, ils disent tous les chemins mènent à Dieu, peu importe le chemin que tu prends. Naam. Exactement, la laïcité. Oui, c'est ça, exactement. Tout le monde, toutes les religions, c'est pareil, il faut s'aimer, il faut s'unir entre toutes les religions. Exactement. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent plein de désordres, plein de guerres, plein de problèmes pour que les gens pensent que c'est la religion qui est la source de tous ces problèmes, de toutes ces guerres. Puis après, ils disent, regardez, qu'est-ce que font les religions, il faut toutes les éliminer, ou bien il faut qu'elles s'unissent toutes, hein, pour faire juste une, pour faire la paix. Alors que c'est eux qui sont derrière l'égarement, et le shirk et le kufr, et les fitanes qui se passent dans le monde. Donc ils créent du chaos pour que les gens disent, ah, il faut aller vers... Hein, eux, parce que c'est eux qui vont nous donner la solution à tous ces problèmes-là. En tout cas. Donc, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Donc, il dit, ces gens-là, ils ont exagéré dans le tawhid. Ils ont dit, si quelqu'un croit qu'il y a une différence dans la création, alors c'est un mushrik, parce que tout est Allah. Et celui qui dit qu'il y a une différence entre le créateur et la créature, c'est un mushrik. Et pour eux, celui qui est sur le tawhid et qui est un vrai muwahhid, c'est qui? Pour eux, c'est celui qui dit que toute la création est Allah. Allah musta'an. Et donc, que Allah soit purifié et exalté de ce que ces gens-là attribuent ou de ce qu'ils disent. Et donc, le cheikh, il dit ça, c'est la parole de ceux qui appellent à wahdatul wujud. Hein? Et ça, c'est du kofr et du shirk, il n'y a pas de doute. Et parmi les gens que certains de ces islamistes, de ces égarés aujourd'hui suivent, parmi les hizbiyyin, qui ont appelé à ces idées-là, Hassan al-Banna, Sayyid Qutb dans son tafsir, Zilal al-Qur'an, que les hizbiyyin vénèrent, hein? Eh bien, il y a dedans wahdatul wujud. Dans son tafsir de surat al-Ikhlas et dans d'autres surat aussi, hein, Cheikh Rabi, il a écrit un livre, Hafizahullah, il a écrit un livre, pas juste un livre, plusieurs livres pour mentionner les égarements et les erreurs de Sayyid Qutb. Et parmi ces égarements là, il a mentionné justement le fait que Sayyid Qutb appelle à la croyance en Wahdatul Wujud dans son tafsir Dilal Qur'an à plusieurs endroits dedans et dans d'autres de ses livres aussi. Et Hassan al-Banna, la même chose. Hein? Hassan al-Banna, il a des poèmes et des chansons qu'il chantait quand il était dans ses délires soufis qui, expriment la croyance en Wahdatul Wujud. Et souvent, les soufis, quand ils parlent de Wahdatul Wujud, ils l'expriment en poésie. pour essayer de faire croire que c'est du langage yani symbolique et allégorique. En réalité, ils croient réellement en ça. Hein? Yani, il a écrit, Sayyid Qutb, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu interpréter, écrire un tafsir et interpréter le Coran à la façon, yani, de la mentalité des gens d'aujourd'hui, avec les idéologies d'aujourd'hui. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les gens d'aujourd'hui, yani, ils ne comprennent pas le langage des ulamas et des savants de l'islam. Donc lui, il a voulu écrire un tafsir avec le langage moderne. Hein? C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui retournent à ça, parce qu'ils comprennent. Il y a beaucoup de gens, ils sont tellement éloignés de la religion et du langage des ulamas et des écrits des savants de l'islam, qu'ils ne comprennent pas les livres quand on lit, qu'est-ce qu'on est en train de lire là. Si tu leur lis des passages de ça, là, eux là, ils ne comprennent pas, parce que pour eux c'est un autre langage, d'autres terminologies qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. C'est pas un langage moderne. Hein? C'est un langage classique, c'est une façon classique de parler. Alors que le langage moderne, comme on entend parler par les occidentaux, puis par les journalistes et tout, eux, ils ont, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les expressions de l'Europe ou des langages européens, ils les traduisent en arabe. Et donc, ils parlent comme s'ils parlaient en anglais ou en français ou d'autres langues européennes, mais c'est en fait de l'arabe traduit, c'est comme si c'était de l'anglais ou du français traduit en arabe. Et c'est comme ça qu'ils parlent, en fait. C'est pour ça que quand tu les entends parler l'arabe, tu dis ça, tu ressens pas que c'est de l'arabe qu'ils parlent. C'est des mots arabes, ils parlent en arabe, mais l'esprit de qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, la façon comment ils parlent, tu sens que ça, c'est étranger à l'arabe. Et c'est étranger à la mentalité aussi des Arabes de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avant. Naam. Donc, c'est ça. Et ça s'est produit également lorsque les musulmans ont commencé à traduire les livres des Grecs en arabe. La même chose. Tu sens dans ces livres que les Arabes ont traduit du grec, tu sens que c'est pas de l'arabe pur. Tu sens que c'est pas la mentalité des Arabes, que c'est pas ni la façon dont ils s'expriment habituellement. Naam, il dit donc que certains d'entre ces soufis-là également, ils disent que Allah entre dans certains de ses saints, hein, certains de ces hommes pieux, des hommes pieux, et on appelle ces gens-là, ceux qui croient en ça, on les appelle al-hululiyya, ceux qui croient en al-hulul. Et certains d'entre eux, il y en a qui disent que celui qui est arrivé à Allah, qui a atteint, hein, qui a été capable d'arriver à Allah, il n'a pas besoin de suivre les prophètes et les messagers. Ils disent que le messager, c'est uniquement pour le commun d'entre les musulmans, les gens ordinaires, les gens de la masse. Eux, ils ont besoin du messager. Mais les soufis, eux, qui ont atteint qui sont arrivés à Allah, eux, ils n'ont pas besoin de messagers. Ils n'ont pas besoin du Coran. Ils n'ont pas besoin de la Sunna. Eux, non. Ils vont direct à Dieu. Donc, eux, ils disent, nous, on est les khawas. On est les élites. On est les élites spirituelles. On est les élus. Ou bien, ils disent, khawas ul khawas. Ou khas ul khas. Hein? C'est-à-dire, on est les élus, les élites de l'élite. Subhanallah. Il y en a, ceux-là c'est pire même. Il y en a qui disent juste le Coran, ils prennent pas de la Sunna ou du Hadith. Ou il y en a d'autres, ils disent même le Coran, ils vont dire, moi j'ai quelque chose supérieur au Coran. Parce qu'il dit, toi tu as pris le Coran, tu l'as pris de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a reçu de Jibril. Hein? Et bien nous non. On prend notre religion directement de Dieu. On ne prend pas d'intermédiaire, nous. On prend de Dieu direct. Comme s'ils pensent qu'ils sont des prophètes, en fait. Hein? C'est du kufr, ça. Donc, il y en a parmi ces soufis, c'est ça qu'ils pensent, c'est ça qu'ils disent. Il y en a qui disent, parmi eux, moi je vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans mes rêves, il vient, il me donne des nouvelles révélations. Il m'enseigne des nouvelles adorations, des nouvelles prières, des nouveaux zikrs. Hein? Et il y en a d'autres, il y en a même chose comme les chrétiens, comme tu dis. Et il y en a d'autres parmi eux qui ne disent pas seulement qu'ils le voient en rêve, ils disent même qu'il vient en personne, en éveil. Il leur parle, il leur révèle des nouvelles affaires de la religion. Et il y en a qui se basent sur le hadith du prophète Sassoum qui dit « Celui qui me voit en rêve, il m'a réellement vu. » Parce que le shaitan ne peut pas prendre mon image. Et donc, eux, ils prennent ça comme une preuve pour dire « Bon, ça, c'est la preuve. Si on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que c'est vrai. » Sauf que les sahaba, eux, ils disaient « Si quelqu'un prétend qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, demandez-lui de décrire celui qu'il a vu. » Parce que quelqu'un peut prétendre être le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un rêve, le shaitan peut prendre l'apparence de quelqu'un d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et se prétendre être le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Mais il ne peut pas prendre l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il peut prétendre être quelqu'un. Il peut prétendre être le prophète sallallahu alayhi wa sallam et prendre une autre image et ramener des mensonges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de soufis. Allah al-Musta'an. Ensuite, le cheikh il mentionne un autre verset. On va expliquer ces derniers versets-là, puis après ça, on va s'arrêter. Le cheikh il dit ittakhadhu ahbarahum. Donc, cheikh al-Islam ibn Taymiyyah il mentionne les exemples des égarements des chrétiens aussi encore. Il dit ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Wa fassarahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li'adi ibn Abi Hatim. لعدي بن حاتم رضي الله عنه بأنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمر به وإن تضمن تحليل الحرام أو تحريم الحلال. Donc le cheikh il dit, il a lu le verset 31 dans sourate Tawbah qui dit ils ont pris leur rabbin et leur moine comme seigneur, comme égaux en dehors d'Allah, et ils ont pris également le Messie fils de Marie comme un égal avec Allah. Ils l'ont pris comme seigneur en dehors d'Allah. Et ce verset il a été interprété par le prophète sallallahu alayhi wa sallam au compagnon qui s'appelle Adi ibn Hatim. Et Adi ibn Hatim, c'était un chrétien qui s'est converti à l'islam à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité ce verset, Adi a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, nous ne les adorions pas. C'est-à-dire, on n'adorait pas nos moines et nos rabbins et nos prêtres, hein. Nos curés, nos évêques, hein. On ne les adorait pas. Hein, ou le pape. Ils ne les adoraient pas en priant à eux ou en se prosternant devant eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas qu'ils rendaient halal ce qui est haram et vous les obéissiez, et ils rendaient haram ce qui est halal et vous les suiviez? Alors Adi a dit, oui, c'est vrai. On rendait haram ce qui est halal. Ils rendaient haram ce qui est halal et on les suivait. Ils rendaient halal ce qui est haram et on les suivait. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors c'est ça votre adoration pour eux. C'est comme ça que vous faisiez d'eux des échos avec Allah et des seigneurs avec Allah, en les obéissant dans ce qui contredit la religion d'Allah. Et il dit, beaucoup d'entre ceux qui suivent les adorateurs et les soufis, hein, ou bien il y en a des fois par, il y en a d'autres parmi les adorateurs, beaucoup d'entre eux obéissent ceux qu'ils respectent et qu'ils vénèrent dans tout ce qu'ils leur donnent, même si c'est contraire à la religion, même si ça implique de rendre halal ce qui est haram ou ça implique de rendre haram ce qui est halal. Et le cheikh Al-Fawzan il explique ce passage, le passage 59, en disant أي من المتصوفة من غلا في مطبوعه وشيخ طريقته فشابه الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله
والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. هذه الآية نزلت في النصارى وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على عدي بن حاتم رضي الله عنه وقد كان نصرانيا قبل الإسلام، وقال عدي إنهم لم يعبدوهم وظن أن العبادة هي الركوع والسجود لهم، فقال أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى، قال تلك عبادتهم. Donc c'est exactement ce que je disais. Cheikh Al-Fawzan dit parmi les soufis, il y en a qui ont exagéré à propos de ceux qu'ils suivent, et les chouïrs de leur tariqa, de leur voie, de leur secte, et ceux qui leur ressemblent. Ils ont imité, en agissant ainsi, ils ont imité les chrétiens et les juifs qui ont pris leur rabbin et leur moine comme seigneur en dehors d'Allah, ainsi que le Messie, fils de Marie, alors qu'il n'avait été ordonné que d'adorer Allah seul. Une divinité unique. Et dans ce verset, il a été révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a récité. Il a été révélé au sujet des chrétiens et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a récité à Adi ibn Hatim, et avant l'islam c'était un chrétien. Alors Adi a dit, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne les adorait pas. Il pensait que l'adoration c'est le recours et le sujoud, la prosternation, le fait de s'incliner ou de se prosterner devant eux. Alors il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, c'est pas ça l'adoration seulement. N'est-ce pas qu'il rendait halal ce qui est haram et vous le rendiez halal, ou il rendait haram ce qui est halal et vous le rendiez haram? Il a dit oui. Alors il dit voilà ce qui était votre adoration pour eux, c'était ça votre adoration pour eux. Il a dit donc, il dit « فالمقصود أن من أطاع مخلوقا في تحليل أو تحريم غير النبي صلى الله عليه وسلم في تحليل أو تحريم غير النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ عن الله فقد اتخذه ربا من دون الله لأن التحليل والتحريم إنما هو حق الله جل وعلا وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مبلغ عن الله وقال سبحانه وتعالى وإن أطعتموهم إنكم مشركون وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وهذه الطاعة استحلال الميتة، ومن هذه الطاعة استحلال الميتة حيث قالوا إنها أولى من المذكى لأن الميتة قتلها الله والمذكى أنتم ذبحتموها. فرد عليهم الله سبحانه وتعالى بقوله. Donc le cheikh il dit qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire par le fait, yani le fait qu'ils ont fait le shirk avec Allah en obéissant une créature dans le fait de rendre halal ou de rendre haram quelque chose autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, autre que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu halal ou haram. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui transmet de la part d'Allah. Donc celui qui obéit à une créature en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le fait de rendre halal ou haram, eh bien il l'a pris comme une divinité, comme un seigneur en dehors d'Allah. Parce que le fait de rendre halal ou de rendre haram, c'est uniquement un droit d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il le fait, quand il mentionne que c'est halal ou haram, c'est une révélation. C'est pas la même chose. Donc il dit celui qui rend halal ou haram quelque chose en dehors d'Allah, eh bien il l'a pris comme un seigneur. Tandis que le messager, lui, il ne fait que transmettre de la part d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 121, dans Surat Al-An'am, si vous leur obéissez, alors dans ce cas-là, vous êtes des mushrikoun. Si vous les obéissez, alors que vous savez que Allah l'a rendu haram, et vous rendez halal l'affaire parce qu'eux vous disent de le rendre halal, alors dans ce cas-là, vous êtes des mushrikoun. Al-An'am, le verset 121. Et ça rentre là-dedans aussi, ceux qui, par exemple, suivent les lois des hommes, comme les lois faites par les laïcs, qui rendent halal ce qui est haram, ou qui rendent haram ce qui est halal, peu importe la loi concernée, que ce soit les lois canadiennes, ou les lois américaines, ou les lois européennes, ou peu importe quelle loi, s'il y a une de ces lois-là qui rend halal ce qui est haram,
c'est-à-dire ce que Allah a interdit dans le Coran et dans la Sunna, eux ils le rendent halal, ou ce qui est haram, ce qui est halal ils le rendent haram, et que tu crois en ça alors que tu sais que c'est contraire au Coran et à la Sunna, alors dans ce cas-là t'as rejeté la foi, t'as mécru. Ça c'est du shirk. Et donc le cheikh il dit le verset 121 dans surat Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et si vous leur obéissez vous serez dans ce cas-là des mushrikoun, il dit ça c'est dans le fait d'obéir, dans le fait de rendre halal la viande morte, parce que les mushrikoun ont amené une shubha, ils essaient toujours d'utiliser de la logique pour essayer d'opposer la révélation d'Allah. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit aux musulmans, ouais, ils ont, c'est la shubha, c'est ça, c'est quand tu mélanges la vérité et le faux, hein, tu ramènes des faux arguments, puis tu essaies de faire croire qu'est-ce que tu dis c'est vrai, avec des faux arguments, un faux raisonnement. Donc eux, ils ont dit, c'est mieux de manger la viande morte que de manger la viande qu'on égorge nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils disent, la viande morte, c'est Allah qui l'a égorgée. Tandis que la viande que tu égorges toi-même, c'est toi qui l'as tuée. Qu'est-ce qui est mieux? Ce que Allah a tué ou ce que toi t'as tué? Hein? Tu vois la shubha? Comment ils ont ramené? Et Allah, qu'est-ce qu'il a dit pour leur répondre? Il a répondu avec yani le verset, si vous leur obéissez, vous serez des mushrikoun. Il a lu les versets, le cheikh, il a lu les versets 112 à 121 dans Surat Al-An'am. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته هو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم بمن يضل عن سبيله إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنون وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يفترون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. نعم وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. Donc on va lire qu'est-ce que signifient ces versets, hein, le sens de ces versets. Dans Surat Al-An'am, le verset 112 à 121. Ainsi à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur l'avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. et pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas en l'au-delà se penchent vers ces paroles et qu'ils les agréent et qu'ils perpètrent ce qu'ils perpètrent. Chercherai-je autre juge qu'Allah, c'est-à-dire vais-je chercher autre que Allah comme juge, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce que le livre, alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé. Ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu avec la vérité venant de ton Seigneur. Ne sois donc pas du nombre de ceux qui doutent. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité, en toute vérité et justice. Nul ne peut modifier ses paroles. Il est l'audient et l'omniscient. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Certes, ton Seigneur connaît le mieux ceux qui s'égarent de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux les bien guidés. Mangez donc de ce sur quoi on a prononcé le nom d'Allah si vous êtes croyant en ces versets, c'est-à-dire dans le Coran. Qu'avez-vous donc à ne pas manger de ce sur quoi le nom d'Allah a été prononcé, alors qu'il vous a détaillé ce qu'il vous a interdit, à moins que vous ne soyez contraint d'y recourir, c'est-à-dire à moins que vous soyez contraint de manger ce qui est haram, dans des situations de contrainte. Beaucoup de gens égarent sans savoir. Il y en a beaucoup de gens sont égarés. Il y en a beaucoup de gens égarent sans savoir par leur passion. C'est ton Seigneur qui connaît le mieux les transgresseurs. Évitez le péché apparent ou caché, car ceux qui acquièrent le péché seront rétribués selon ce qu'ils ont commis. Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, car ce serait assurément une perversité. Les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des associateurs. Exactement. Donc ça, c'est les versets 112 à 121. Le cheikh, il dit, « وَهَذَا مَحَلُّ الشَّاهِدِ وَإِنَّ طَعْتُمُوهُمْ فِي اسْتِحْلَالِ الْمَيْتَةِ فقد جعلتموهم شركاء لله في التحليل والتحريم وهذا من الشرك في الطاعة يسميه العلماء شرك الطاعة أي طاعة العلماء والعباد بتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى وهذا الفعل شائع عند النصارى كما حكى الله عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Donc le cheikh il dit, et c'est ça qu'on voulait mentionner, le verset 121, et si vous leur obéissez, hein, dans le fait de rendre halal la viande morte, alors vous avez fait d'eux des associés avec Allah dans le fait de rendre halal et de rendre haram, et ça fait partie du shirk dans l'obéissance. Et les savants appellent cela le shirk dans l'obéissance. Hein, et c'est-à-dire d'obéir aux savants et aux adorateurs dans le fait de rendre haram ce qui est halal ou de rendre halal ce qui est haram. Et cette action est répandue chez les chrétiens. Et comme Allah l'a mentionné à leur sujet, ils ont pris leurs moines, et leurs rabbins et leurs moines comme des seigneurs en dehors d'Allah. Et le cheikh il termine en disant « Walil asaf » فإننا نجد أن هذا تحقق في بعض الأمة اليوم ممن تشبه بالنصارى فصاروا يتبعون شيوخهم وأئمتهم في الأقوال ولو كانت مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا ما أحلوا شيئا حرمه الله أحلوه وإذا حرموا شيئا أحله الله وحرموه تعصبا لهم دون نظر لدليل أو حجة فلا يتركون شيئا من أقوالهم إلا أخذوه دون تردد وذلك لأنهم يعتقدون فيهم العصمة وقد شابههم من يأخذ
ما يوافق هواه من أقوال العلماء ولو خالف الدليل ويعتبر ذلك من التسامح ويقول الخلاف رحمة. الله المستعان.
Le cheikh, il dit malheureusement, dans cette umma, on a vu que cet exemple s'est réalisé aujourd'hui parmi ceux qui ont ressemblé ou imité les chrétiens. Et donc, ils commencent à suivre leurs chouyours et leurs imams dans leur position, même si leurs positions sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. Donc, si leur imam ou leur chouyours rendent quelque chose haram, hein, de qu'est-ce que Allah a rendu halal, eh bien, eux, ils le rendent haram. Ou s'ils rendent halal, qu'est-ce que Allah a rendu haram, eh bien, eux, ils le rendent halal aussi, par fanatisme, sans regarder la preuve ou l'argument. Donc, le cheikh, il dit, ils ne laissent rien de leurs paroles, excepté qu'ils la prennent, sans aucune hésitation. Il y en a parfois qui font ça aussi par rapport aux les quatre madhahib, les quatre écoles de fiqh. Hein? Ils disent l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad. Si un d'entre eux dit quelque chose, ah, moi je suis Maliki. Hein? Tu lui amènes un hadith authentique, ah, non, moi je suis Maliki, je suis le madhab de l'imam Malik. Ou bien, moi je suis Hanafi, je suis le madhab de l'imam Abu Hanifa, donc je dois faire ça. Alors que tu lui ramènes le hadith authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour leur prouver que ce qu'ils font est incorrect. Et ils s'accrochent fanatiquement à leur position ou à leur madhab. Et parfois, c'est même pas vrai. C'est-à-dire que parfois, c'est même pas vrai que c'est la position de l'imam Abu Hanifa, ou de l'imam Malik, ou de l'imam Shafi'i, ou de l'imam Ahmad. C'est juste, ils prétendent que c'est la position de ces imams-là, alors que dans la vérité, c'est pas vrai. C'est même pas affirmé de façon authentique. Et des fois, c'est des positions de certains savants du madhab qui sont venus 500 ans, 800 ans après l'imam. C'est même pas la position de l'imam lui-même du madhab. Donc, parfois même dans le madhab, il y a 3-4 différentes opinions différentes dans le même madhab. C'est-à-dire que dans le madhab maliki, il y a des savants maliki qui disent oui, et d'autres savants maliki qui disent non. Hein? Donc, eux, ils se basent sur quoi? Sur leur passion, pour prendre une position. Ils ne retournent pas à la preuve, au dalil du Coran et de la Sunna. Et il dit que ceux qui leur ressemblent aussi sont ceux qui... Parce qu'il dit, la raison pourquoi ils agissent comme ça avec ces imams, c'est, ou avec ces chouyours, c'est parce qu'ils croient que ces chouyours-là sont infaillibles. Hein? Et le fait qu'ils se contredisent entre eux, c'est la preuve qu'ils ne sont pas infaillibles. Puisque s'ils étaient infaillibles, ils ne se contrediraient pas entre eux. Hein? Et il dit, non seulement ça, mais il dit, et il y en a d'autres qui leur ressemblent, ils ne suivent pas un imam en particulier, mais ils suivent leur passion. Et ils cherchent parmi les paroles des savants pour trouver la position qui est en accord avec leur désir, même si c'est contraire à la preuve. Et ils considèrent que ça fait partie de la modération puis de la tolérance. Et ils disent, la divergence est une miséricorde. Alors que dans le Coran, Allah a mentionné que la divergence est un châtiment. Et non pas une miséricorde. Et il a dit que c'est seulement ceux qui sont unis sur la vérité qui ont reçu la miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَمَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. C'est-à-dire, ils vont continuer à être divergents et avoir de la divergence, excepté celui à qui Allah a fait miséricorde. Donc c'est la preuve que celui qui est dans la miséricorde d'Allah, il ne diverge pas. Et ça vient réfuter leur parole. Puisque cette parole de dire que la divergence est une miséricorde, ça n'a été affirmé et prouvé par rien. Par rien d'authentique. C'est-à-dire que tu cherches la preuve et tu regardes dans la preuve qu'est-ce qui est plus proche de la vérité, tu le suis. Tu ne suis pas une parole juste parce que c'est en accord avec ta passion. Hein? Et donc, ça c'est un exemple de ces catégories de personnes, comment ils agissent. Non. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a une divergence que la vérité elle n'existe pas. La vérité elle existe entre ces divergences-là, sauf que des fois, certains peuvent arriver à la connaître, d'autres peuvent ne pas arriver à la connaître, mais l'important c'est que tu suives la preuve. La preuve, qu'est-ce qui est plus proche de la vérité selon toi, après avoir fait preuve de sincérité envers Allah, tu suis la vérité, tu suis la preuve. Mais si tu fais juste dire « Ah, moi j'aime cette position-là, donc je la prends », tu regardes même pas qu'est-ce que c'est le dalil, là il y a un problème. Hein, c'est pas ça qu'il faut faire. Et donc c'est ça. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Puis on continuera au prochain cours avec la suite de l'explication de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين